Chapitre 5. Elle reçut la réponse 4 jours plus tard. Otto écrivait. Ma chère sœur, j'ai vu Monsieur Domingo ainsi que vous le souhaitiez. Comme je le pensais, il est tout disposé à cet achat. Mais il voudrait voir les papiers en question pour se rendre compte de leur valeur. Voulez-vous les confier à Pepita? Elle les apportera ici, les montrera à Monsieur Domingo et vous écrira le résultat. Je crois que c'est la meilleure marche à suivre. Naturellement, comptez sur nous, chère petite sœur, pour obtenir de l'acheteur d'excellentes conditions. » Inès, qui avait attendu cette réponse avec une impatience fébrile, s'écria « Oui, oui, emporte-les, Pepita, pourvu qu'il en veuille seulement, s'il allait trouver que ça ne vaut rien. » « Nous verrons. Je pars demain, ma petite. Aussi bien, il est temps que j'aille retrouver Otto. » Madame de Valseur n'insista pas pour retenir sa sœur. Elle avait hâte de savoir si le vieil original jugerait bon d'acquérir ses paperasses. Madame Mulbar partit, emportant ce travail qui avait coûté à André tant de veilles. Elle ne fit pas languir sa sœur longtemps. La semaine suivante, Inès recevait une lettre contenant un chèque de 15 000 francs et ces mots. « Monsieur Domingo, ma chérie, a reconnu dans l'invention de ton mari une arme terrible pour la nation qui la posséderait. Aussi accepte-t-il sans hésiter d'en acheter le plan, pour le détruire, afin qu'un tel engin ne sorte jamais du domaine des spéculations. En raison de l'intérêt qu'il semblait y attacher, Otto a pu obtenir de lui un très bon prix, comme te le prouvera le chèque 6 juin. Monsieur Domingo, ma chérie, a reconnu dans l'invention de ton mari une arme terrible pour la nation qui la posséderait. Aussi accepte-t-il sans hésiter d'en acheter le plan, pour le détruire, afin qu'un tel engin ne sorte jamais du domaine des spéculations. En raison de l'intérêt qu'il semblait y attacher, Otto a pu obtenir de lui un très bon prix, comme te le prouvera le chèque 6 juin. Maintenant, il s'agira, au retour de ton mari, de te montrer à droite, pour qu'il n'ait pas de soupçons. Et, quoi qu'il arrive, je te recommande, Inès, ceci peut avoir des conséquences très graves pour Monsieur Domingo, de ne jamais dire à personne à qui tu as remis ces plans et par quel intermédiaire. Te voilà plus calme, je l'espère, cher enfant. Tes créanciers ne t'ennuieront plus désormais. Tâche maintenant de te montrer raisonnable, car tu ne trouveras plus une occasion comme celle-là. Bon baiser à ta ravissante Florita et tendres affections de ta sœur. Pepita Mulbar. N'oublie pas de brûler ma lettre. 15 000 francs. Le vieil Argentin donnait 15 000 francs de ses papiers. Inès n'en revenait pas. Mais pas un instant le soupçon n'effleura son esprit. Pepita connaissait bien l'inexpérience, la légèreté de sa sœur. Radieuse, la jeune femme alla toucher son chèque, expédia la somme due à Madame Vaneuil, régla ses autres dettes. Et comme il restait quelques centaines de francs, elle pensa. « Que vais-je en faire ?» Après réflexion, elle jugea que rien ne serait plus utile qu'un nouveau chapeau. Justement, la principale modiste de Brest en avait apporté de Paris un délicieux assortiment. Et vite Inès y courut. Comme elle revenait de cette intéressante visite, on lui remit une lettre de Monsieur de Valser. L'écriture en était toute changée. André disait « J'ai été très malade. On m'a transporté à l'hôpital d'Hanoï. Maintenant je vais mieux et je compte pouvoir m'embarquer dans 2 ou 3 semaines pour revenir en France. » La première pensée d'Inès fut « Oh, ce pauvre André, malade, tout seul là-bas, et je n'en savais rien. Pourquoi ne m'a-t-il pas télégraphié ?» Puis elle songea presque aussitôt. « Il va revenir. Il regardera sans doute dans le placard pour voir si ses chers papiers sont toujours là. » Et la jeune femme eut un petit frisson. Elle comptait avoir beaucoup plus de temps avant le retour de son mari. À ce moment-là, pensait-elle, avec son habituelle insouciance, il serait bien assez tôt de songer à la petite phase désagréable par laquelle il lui faudrait passer, au mensonge qu'il faudrait fermement soutenir. Mais l'échéance apparaissait très proche maintenant. Dans 1 mois, peut-être, André serait là. Pourvu qu'elle sût rester calme devant ses questions quand il s'apercevrait. Cette inquiétude se mêlait à celle qu'inspirait à Inès la santé de son mari, auquel, tout au fond de son cœur, elle restait encore attachée. Madame de Valser se disait, pour calmer sa conscience, qui s'éveillait de temps à autre, « Ce qui appartient à mon mari est aussi à moi, donc j'avais le droit. » Madame Mulbach, à qui elle avait appris la nouvelle de ce retour inopiné, lui répondit « Ne te tourmente pas, ma chère petite, au sujet de ce que pourra dire et penser ton mari. Comment veux-tu qu'il s'imagine que toi, le petit oiseau insouciant, toi qui jamais ne t'intéressais à ses travaux, tu sois l'auteur de sa disparition ? Non, mignonne, rassure-toi, c'est un moment assez désagréable à passer, j'en conviens. Mais la certitude de n'être jamais soupçonnée doit te donner l'assurance nécessaire pour opposer une imperturbable sérénité aux questions d'André. » Ce raisonnement de sa sœur calma presque complètement les craintes de la jeune femme. Néanmoins, elle avait comme un petit tremblement intérieur quand, au jour annoncé par une dépêche de l'officier, elle alla au-devant de lui à la gare. En l'apercevant qui descendait du train, une impression d'effroi l'étreignit. Quel changement ! Maigre, le teint jaune, l'air vieilli, M. de Valserre était à peine reconnaissable. Il s'aperçut du saisissement de la jeune femme et dit avec un sourire forcé « Tu me trouves bien changée. » Inès l'embrassa longuement et murmura « Je te soignerai bien, mon pauvre chéri. Tu vas te remettre vite maintenant. » Florita était là aussi, toute joyeuse. Le père s'exclamait avec émotion « Comme elle a grandi ! Comme elle est gentille, ma petite fleur !» Il semblait au convalescent que ce retour dans son foyer ranimait aussitôt en lui un peu des forces épuisées par la maladie. Et de fait, il se sentit mieux les jours suivants. Sa complète guérison, dont il avait désespéré, lui paraissait maintenant chose possible. Des amis venaient le voir. Florita ne le quittait guère du matin au soir, sauf lorsqu'elle allait se promener avec son ancienne nourrice, une paysanne des Cévennes ayant perdu mari et enfant, qui avait accepté de suivre à Brest ses maîtres par dévouement pour sa nourrissonne. Quant à Inès, frappée du changement physique survenu chez son mari, obéissant en outre à un vague désir de réparation, elle se montrait prévenante, refusant des invitations pour rester près d'André, lui témoignant une sollicitude dont il se sentait touché. C'est qu'il l'avait tant aimé, son Inès, et il lui avait semblé si dur de s'en détacher. Il pensait maintenant « Je n'ai peut-être pas su m'y prendre, il y a quelque chose de bon chez elle. » Avec de la patience, de l'affection, pas trop de sévérité, je dois arriver à la changer un peu, si elle m'aime toujours comme je le crois. » Et, repris au charme de cette Inès plus raisonnable, gentiment affectueuse, il redevenait peu à peu le mari très épris qui avait si longtemps cédé à toutes les fantaisies de la jeune femme. Étant donné ses dispositions favorables, Madame de Valserre se rassurait de plus en plus au sujet de la découverte du larcin. D'abord, André avait reçu des médecins la défense formelle de travailler, pendant des mois encore. Il y avait donc chance pour qu'il ne songeât pas à regarder ses plans d'ici longtemps. Puis, en admettant qu'il le fît, jamais il ne soupçonnerait sa chère Inès, sa jolie petite Inès, comme il disait, avec la tendresse d'autrefois. Or, cet événement se produisit plus tôt que ne le pensait la jeune femme. Un mois environ après le retour d'André, en rentrant un après-midi, après quelques visites faites, elle se heurta dans l'antichambre à l'officier qui sortait de son bureau. Il demanda d'une voix un peu agitée « Inès, as-tu ouvert mon petit placard pendant que je n'étais pas là ?» Elle eut un choc au cœur et bénit l'obscurité de l'antichambre, car elle n'avait pu s'empêcher de rougir. Quelle que fût son émotion, elle réussit à répondre d'un accent qui tremblait à peine. « Mais non, mon ami, je n'ai rien à y faire, tu le sais bien, il ne renferme que des livres, des papiers à toi. »« Oui, mais il me manque justement de ces papiers, quelque chose de très important. Où mets-tu la clé ?»« Dans un tiroir de mon bureau, avec celle de mon coffret à bijoux. »« Tu es sûr qu'on ne peut pas la prendre ? Tu n'as pas laissé un jour ce tiroir ouvert ?»« Mais je ne crois pas. » « Non, vraiment, cela n'est pas arrivé, André. Est-ce que tu soupçonnerais qu'on t'ait volé cela ?»« Il n'y a pas de doute. Je suis absolument sûre de les avoir vus là avant mon départ. D'ailleurs, me défiant de ma mémoire, un peu vacillante depuis quelque temps, j'avais inscrit sur le carnet qui ne me quitte pas cette indication. Plan X sur la seconde planche du petit placard de mon cabinet. Donc, pas d'erreur possible. Ces papiers étaient là. Que sont-ils devenus ? Comment la clé se trouvant enfermée dans ton tiroir, a-t-on pu les dérober ? Avec de fausses clés, naturellement, mais comment s'est-on introduit ici ? Tout en parlant ainsi, d'une voix changée par l'émotion, M. de Valserre entrait dans la salle à manger dont la porte était ouverte, et Inès, qui le suivait, les jambes un peu tremblantes, vit, quand il se tourna vers elle, son visage bouleversé par l'inquiétude. Elle dit en balbutiant un peu, « Comment veux-tu qu'on l'ait pu, à moins que ce ne soit un jour où il n'y avait personne ici, un dimanche par exemple ?»« Oui, il faut que ce soit cela, quelqu'un a eu vent de mon travail. Les espions abondent dans notre pauvre pays, et ces plans seraient précieux pour eux. »« Pour eux ? Qui ?» L'officier laissa retomber son poing sur la table et gémit. « Ah, ces maudits Allemands, parbleu ! Oui, ce sont eux, j'en suis sûr. Ils possèdent mon invention. Ils vont s'en faire une arme terrible contre la France. Ah, c'est épouvantable, Inès !» Son pâle visage s'empourprait. Un véritable désespoir apparaissait dans son regard. Inès avait tressailli. « Qu'est-ce qu'il disait là ?» Elle bégaya. « Les Allemands ? Tu crois que... J'en jurerais, cela leur serait si précieux. Un sous-marin d'un type tout nouveau, mieux armé que tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. On me l'a refusé au ministère. Mais un jour, j'aurais fini par le faire adapter. En tout cas, il n'aurait pas servi à d'autres qu'à mon pays. » Il allait, venait, saisi d'une agitation fébrile. Inès, raffermissant sa voix, objecta. « Tu n'as peut-être pas bien cherché, regarde encore. » Elle le suivit dans le cabinet, retira un à un les livres, les papiers. Ses mains tremblaient un peu. Vraiment, elle n'aurait pas cru que ce fût si dur, un mensonge de ce genre.
« Tu vois, Inès, ils n'y sont pas. En effet, voyons, tu les as peut-être mis ailleurs en oubliant de noter ce changement. Non, non, je me souviens très bien de les avoir vus là, quelques jours avant mon départ. » Naturellement, les plans demeurèrent introuvables. Monsieur de Valserre paraissait atterré. Il n'y avait plus de doute pour lui. Cette mystérieuse disparition ne pouvait être que l'œuvre d'un de ces espions innombrables qui pullulaient sur la terre de France, trop accueillante. Et son invention, le fruit de ses réflexions, de ses fatigues, de ses veilles patientes, serait utilisée par les ennemis contre sa patrie bien-aimée. À cette pensée, le malheureux tressaillit d'horreur. Puis la colère montait en lui. Tendant les poings à un être invisible, il disait sourdement « Oh, si je le tenais, ce voleur, ce misérable, si je le tenais !» Quand Inès entendait cela, elle frissonnait jusqu'aux moelles et songeait avec terreur « Qu'est-ce qu'il me ferait s'il savait ?» Réellement, elle n'avait pas imaginé qu'il prît cela tant à cœur. Cette idée qu'il se faisait que ses plans pouvaient servir à l'Allemagne. Inès savait bien, elle, qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté. Le vieil original pacifiste les détruira, Pépita l'avait dit. Madame de Valserre se répétait cela. Mais une singulière inquiétude la mordait au cœur, malgré tout. Pourtant, elle n'allait pas se figurer que Pépita l'avait trompée. Ce n'était pas une raison parce que son mari était allemand pour imaginer ces choses. D'ailleurs, André s'exagérait probablement la valeur de son invention. Puisqu'on la lui avait refusée au ministère, et sur ce point-là, en tout cas, Pépita avait dit vrai, c'est qu'elle n'était pas utilisable. Donc, en admettant au pis-aller qu'elle fût tombée entre des mains ennemies, celle-ci n'en pourrait faire aucun usage pratique. En dépit de tous ces beaux raisonnements, Inès n'avait pas la conscience tranquille, d'autant moins qu'elle voyait son mari, profondément affecté, constamment plongé dans de sombres réflexions, perdant à nouveau ses forces, qu'il commençait de reprendre. « Je n'y comprends rien, » disait le médecin à Madame de Valserre. Le commandant semblait beaucoup mieux après son arrivée. Avec des ménagements et du repos, je comptais bien le remettre d'aplomb, mais maintenant je ne sais plus, plus du tout. La jeune femme comprenait qu'il était inquiet au sujet de son malade, et le remords l'étreignait de plus en plus. Sa sœur lui écrivait des lettres encourageantes et affectueuses, mais Inès répondait par quelques lignes très froides. Elle gardait rancune à Pépita de lui avoir parlé du vieil Argentin, de ne pas l'avoir empêché de commettre cette faute, de lui avoir donné les moyens de la commettre. Et puis il y avait ce soupçon, ce méchant soupçon, avec le vague désir d'atténuer la douloureuse préoccupation qui semblait abattre M. de Valserre, la jeune femme se montrait pour lui très tendre, et parfois elle réussissait à dérider son front soucieux, à ramener un sourire sur ce visage si profondément creusé par la maladie. Il lui disait en l'embrassant « Ma petite Inès, près de toi, j'oublie un instant ce qui me tourmente cependant à un point que tu ne peux t'imaginer. » Elle avait un petit frémissement intérieur à ces paroles, car il eût fallu avoir le cœur bien endurci pour ne pas éprouver de lancinants regrets près de ce mari si bon, reconnaissant de peu et qui souffrait tant par la faute de celle qu'il aimait. Un matin, M. de Valserre entra dans la chambre où Inès, assise devant son petit bureau, commençait de ranger des lettres et des factures, plus ou moins en désordre, dans ses tiroirs. « Que fais-tu cet après-midi, ma chérie ? J'avais envie, pour obéir aux prescriptions du docteur, de faire une promenade en voiture. » Elle lui sourit. « Oui, mon ami, nous sortirons à l'heure que tu voudras. Ce que j'ai à faire n'a aucune importance. En ce cas, je vais envoyer Augustine commander une voiture. C'est cela, qu'elle emmène Florita, qui ne se plaindra pas de cette petite promenade. Elle viendra avec nous cet après-midi, naturellement. » Tout en répondant ainsi, M. de Valserre se penchait pour ramasser une feuille bleutée qu'un mouvement de sa femme venait de faire tomber du bureau sur le tapis. Il y jeta machinalement les yeux. C'était un bulletin concernant des fourrures mises en garde pour l'été, et celles-ci se trouvaient désignées là avec leur valeur approximative. Il lut, relut, fit mentalement le total, et dit tout haut, en regardant sa femme avec stupéfaction, « Tu as pour 8 500 francs de fourrure ?» Elle tressaillit, devint très rouge, et voulut saisir la feuille. Mais André se recula. Une flamme de colère s'alluma dans son regard. Il demanda, en maîtrisant avec peine le frémissement de sa voix, « Qui t'a payé cela ?» Elle eut un cri de protestation. « Oh non, André, ce n'est pas ce que tu crois. Alors quoi ? Avec quel argent as-tu acheté ces fourrures ?» J'ai emprunté.
À qui ?
À Julia Vaneuil. Tu lui dois cette somme ? Perdant pied, ne sachant plus comment sortir de cette impasse, elle se leva brusquement, très rouge, un défi dans les yeux. Qu'est-ce que cela te fait ? Je ne te demande rien. Je me suis arrangée. Ah ! Tu crois qu'il m'est indifférent de savoir comment ma femme se procure de l'argent qui paye ses fantaisies ? Tu vas me dire, à l'instant, ce qu'il en est, les arrangements que tu as pris avec cette madame Vaneuil que je t'avais prié de ne plus fréquenter. As-tu donc été à Paris pour la voir pendant mes absences ? La jeune femme le brava. Oui, j'y ai été. J'imagine que je ne suis pas prisonnière, obligée de ne pas bouger d'ici quand tu navigues au loin. Julia était mon amie, nous nous plaisions beaucoup. Était ? Ne le serait-elle plus ? Non, tu peux être content maintenant. Nous sommes brouillés, brouillés à mort. Ah ! Mais en ce cas, elle a dû te réclamer sa dette. Inès comprit son imprudence, trop tard. Elle rougit plus encore en répondant. Non. André dit avec dureté. Tu mens, je le vois dans tes yeux, tu mens, Inès. La dette a été payée, comment ? Cette fois, madame de Valserre ne répondit pas. Serrant les lèvres, elle détourna son regard de celui d'André. L'officier lui saisit le poignet brusquement. « Réponds. Comment as-tu payé ? Je veux savoir. J'ai le droit de savoir où tu t'es procuré cet argent. »« Non, tu ne sauras rien. Laisse-moi tranquille. » Et, retirant sa main d'entre les doigts d'André, la jeune femme se détourna vers son bureau. M. de Valserre dit entre ses dents, « Il faudra pourtant bien que je le sache. » Et quittant la chambre, il alla s'effondrer dans un fauteuil, car il se sentait très faible tout à coup. Maintenant, la moindre émotion l'abattait. Que dire donc de cette scène, de cette révélation, du mystère caché derrière l'obstination d'Inès, refusant de répondre à ses questions ? Qu'a-t-elle fait ? Qu'a-t-elle pu faire pour se procurer cette somme ? Songeait l'officier, les coudes au bureau, le front serré entre ses mains devenues glacées. L'emprunter à l'un ou l'autre, mais à qui ? Et pourquoi, en ce cas, ne veut-elle pas le dire? Dois-je croire à sa protestation devant mon soupçon deviné par elle? Certainement, cette protestation m'a paru spontanée, sincère, mais il y a des femmes si habiles comédiennes. À ce point de ses réflexions, M. de Valserre entendit un coup léger frapper à sa porte et une petite voix qui criait « Papa, Florita peut entrer ?» Il répondit « Oui, chérie. » La porte s'ouvrit, livrant passage à la petite fille que suivait Augustine, sa nourrice. Florita s'élança vers son père. « Tiens, papa, je veux te montrer le beau collier que tante Pépita m'a donné. » Elle portait ses mains au rang de menues perles de nacre qui entouraient son frais petit cou satiné. « Oui, mignonne, il est très joli. » Il levait sa main, la posait sur les cheveux d'un si beau blond doré, tombant en grosses boucles autour d'un délicieux visage. Augustine fit observer. « Ne tire pas comme ça sur ton collier, ma petite chatte. Si tu le cassais, Madame Mulbach ne serait pas contente. » Madame Mulbach. Pourquoi le nom aux consonances germaniques le frappait-il ainsi, tout d'un coup? Il dit doucement en écartant l'enfant. « Maintenant va, ma fleur, va avec Augustine. J'ai à écrire. Tout à l'heure j'irai te retrouver dans la salle à manger. » L'enfant, obéissante, quitta la pièce, après avoir reçu un long baiser de son père. Et de nouveau, André se prit le front à deux mains. Mulbach, son beau-frère, l'Allemand. Il ne le connaissait guère. Au moment de ses fiançailles et de son mariage, il l'avait vu 5 ou 6 fois, voilà tout. C'était un bel homme, blond, un peu fort, de mine intelligente. Il avait témoigné à M. de Valserre une grande amabilité. Néanmoins, celui-ci n'avait pu se découvrir aucune sympathie pour lui. Mais il attribuait cette disposition à son très vif patriotisme, qui lui faisait considérer avec déplaisir ce beau-frère appartenant à la race détestée, Otto Mulbach, le mari de Pépita. Pépita qui était venue ici à la fin de mars pour passer quelques jours près d'Inès. Celle-ci l'avait dit à son mari, et les plans avaient disparu. L'officier se mit debout, livide, les yeux hagards, tremblant de tous ses membres. « Non, non, pas cela, pas cette horrible pensée. Les plans vendus par Inès à Mulbach, à l'Allemagne. C'était fou, c'était odieux d'imaginer pareille chose. » Il fit quelques pas, saisit le dossier d'une chaise, car ses jambes avaient peine à le soutenir. Pourtant, cet argent dont elle ne voulait pas lui dire la source. Ah, il allait savoir, oui. Il fallait qu'il sût, enfin. En se traînant, il alla vers la chambre, ouvrit et entra. Inès, étendue dans un fauteuil, pleurait, un mouchoir sur ses yeux. Monsieur de Valserre demanda, d'une voix étrange, au timbre dur. « Combien Mulbach t'a-t-il payé mes plans, Inès ?» La jeune femme eut un violent sursaut, et le mouchoir s'échappa de ses mains. Toute blême, levant sur son mari des yeux affolés, elle essaya de parler. « Que veux-tu ? » Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge, devant la furieuse indignation, le désespoir fou qui bouleversait la physionomie livide d'André. « Misérable, misérable ! Voilà donc ce que cachaient tes baisers de Judas, le vol, la trahison !» Elle gémit sourdement. « André ! » « Oui, pendant que je remplissais mon devoir d'officier, en te confiant l'honneur de mon foyer, le soin de notre enfant, pendant que je souffrais, que j'agonisais presque là-bas, toi tu me volais, tu trahissais ma patrie, la tienne aussi, par notre mariage. » « André, je ne savais pas, je t'assure, je croyais. » Elle se levait tremblante, les mains jointes. Mais il eut un geste qui la repoussait loin de lui. « Va-t'en, maudite, maudite !» Va les retrouver tes complices, tu pourras leur dire que tu as tué un officier français. » Il porta les mains à son front, balbutia encore quelques mots, puis, tout d'une pièce, s'abattit sur le tapis.